Bon midi, mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission. On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1 avec ma collègue de chaque midi, Pascal CV. Comment ça va, Spicy P?
Ça va très bien. Cool. J'espère que toi aussi.
Ben oui, t'avais-tu de quoi de spécial? TV?
OK, tu vois le petit look un peu plus télévisuel que radiophonique.
Ben oui, maquillée toute à la télévision. Wow!
Et puis j'avais un petit chemisier, mais là, le chemisier a pris le bord. Une fois rendu à la radio, on a pu bien se mettre une petite laine d'automne.
Mais là, pourtant, on est sur Twitch. Twitch.tv / BLVD / FM.
OK, je
venez voir Pascal CV maquillée comme si... elle travaillait à la TV présentement.
J'attendais la suite.
J'ai quand même resté poli.
Je ferai plus d'efforts pour toi dans l'avenir. Écoute, Jean-François, mais oui, c'est un petit tournage. On a encapsulé quelque chose, Marc-Antoine Reed, chroniqueur ici et moi, avec l'équipe de Plein Feu sur Québec pour en fin de semaine.
C'est bien cool.
Parce qu'on va officiellement remettre le chèque à la Fondation Cerveau la semaine prochaine.
Wow!
Puis on peut déjà dire qu'on a ramassé plus de 100 000 $.
Wow!
Puis on va donner la somme exacte lors de la remise officielle. Mais c'est ça, on est super heureux. On vous remercie absolument tous et chacun. Les petites sommes comme les sommes d'entreprise, comme tout a fait en sorte que maintenant, on a plus de 100 000 $ à offrir à la Fondation Cerveau la semaine prochaine.
Vous êtes extraordinaire. Félicitations. Quel beau défi que le défi du Kilimanjaro est tout simplement fabuleux. 100 000 $ pour la santé mentale. Wow, ça me touche infiniment.
Ici, dans notre ville.
Fist bump. Good job. Yes, sir. Je suis très fier de toi, Pascal. Très fier de toute l'équipe qui était avec toi dans ce...
C'est le cas de le dire. Travail d'équipe.
Capitaine Marc-Antoine Reed.
Oui.
On salue Joannie Fortin également de Weekend Radio, notre station sœur, qui a participé également au défi du Kilimanjaro. Je vous le rappelle... 418-971-1021 pour nous joindre par texto. On est également disponible sur la web radio blvd.fm et vous retrouvez le meilleur de nos émissions également dans l'onglet podcast. Vous avez aussi notre application qui est disponible dans l'App Store, Google Play Store. C'est Boulevard 102.1 et les haut-parleurs intelligents. Qu'est-ce qu'on dit, non, Pascal CV, haut-parleurs intelligents? Aide-moi dedans, là.
BLVD 102.1. Et là, vous allez tomber directement sur la belle voix doucereuse de chacun de vos animateurs ici.
C'est ça, là, vous allez tomber. C'est ça. Oh, le Twitch. Oh, on marque le Twitch, s'il vous plaît. Quoi, le Twitch n'est pas parti?
Non, il y avait un petit bug, mais il est là, les amis.
Il est là. Hey, as-tu vu comment les gens veulent venir voir Pascal CV maquillé comme une TV Girls?
Je dirais pas que je suis au bout complètement de la caméra et qu'on voit pas grand-chose.
Mais c'est pas grave.
Venez
moi,
nous
je
voir.
Vois pas la différence. Ah! Tantôt, t'as dit je suis maquillée, mais t'es toujours belle, t'es toujours rayonnante.
Non, mais j'en ai plus souvent voir, y a pas de problème.
Oui. Antonine, wow, c'est donc bien beau. Mais moi, je suis chanceux parce que je travaille avec Pascal. Antonine, qui est toujours avec nous, vous êtes des femmes rayonnantes, vous êtes des femmes brillantes. Je suis heureux de travailler avec vous.
Bon, c'est pareil pour nous.
C'est
merci,
beau,
Jeff.
Hein? Excellent. Anto, ça va être gros, ce qu'on va dire, là, au monde. T'as de quoi, là? T'as mis à main sur des documents, là?
Oui! Oh, fait qu'on parle le caucus!
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iaccarini.
Le caucus Iaccarini a mis à main sur des dossiers spéciaux. Et pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on va parler, on écoute notre premier ministre.
Je ne sais pas comment le dire, là. Je vais être là en octobre 2026. Puis je veux un troisième mandat. Je veux compléter le travail qu'on est en train de faire, entre autres avec Hydro-Québec, l'énergie, l'économie, où depuis 6 ans, on a battu le reste du Canada puis on a réduit l'écart de richesse. Mais il en reste encore un écart de richesse. Donc, je veux finir la job. Avec les médecins, je veux finir la job. Donc, moi, je suis plus passionné que jamais.
J'ai pitché une loi spéciale, j'ai expliqué ma vision économique, je veux finir la job, mais est-ce que
je suis plus passionné que jamais.
Plus passionné que jamais, oui.
Mais dans les coulisses là, de la CAQ, là, il se trame quoi pour François Legault?
Bon, écoute, il faut se rapporter, il y a quelques années, M. Legault disait qu'il ne ferait pas plus de 2 mandats. Hein, il a déclaré publiquement à plusieurs reprises. Il avait aussi dit, puis on revisitait tantôt avec des collègues les entrevues qu'il donnait à ce sujet-là, et il disait, bien, c'est sûr que si je ne fais pas de troisième mandat, à un moment donné, dans le deuxième mandat, il va falloir que je quitte,
ben oui.
Qu'il y ait une course à la direction. On est d'accord.
Exactement.
Bon, là, ces temps-ci, évidemment, ça va moins bien pour la CAQ. On a des sondages dont on va discuter dans un instant qui ne sont pas très reluisants. Et il se fait poser énormément de questions sur son avenir politique. Est-ce qu'il va rester vraiment jusqu'en 2026? Puis c'est sûr, quand on met en contraste avec ce qu'il disait par le passé, il a clairement changé d'idée. Mais là, je vous ramène en 2023. La CAQ, le parti, a préparé des règles de course à la direction.
Oh, oh! Donc, mais on a toujours dit que la CAQ, c'était le parti de François Legault.
Bien, puis d'ailleurs, François Legault, le nom de François Legault est dans le nom du parti.
Oui.
Donc, moi, je trouve souvent qu'on n'a pas mis les jalons pour la succession entre François Legault. On n'a pas préparé des successeurs. Au contraire, en fait, on en a brûlé plusieurs, là, des successeurs.
Autant pour son parti, je trouve, l'interne, que pour les électeurs, les futurs électeurs.
Aussi. Souvent, je me dis, coudonc, c'est comme s'il ne voulait pas penser à l'après. Puis est-ce que la CAQ va survivre finalement après François Legault? Après son remaniement ministériel, il avait fait une tournée d'entrevue, puis il avait répondu aux gens, pourquoi vous restez, pourquoi vous entêtez à rester, vous aviez dit que vous feriez deux mandats. Il avait répondu, c'est une coalition, hein? Mon caucus, là, c'est pas tout du monde qui pense pareil, puis ils ont besoin de moi pour tenir ça ensemble. Mais le parti, il y a quelques années, il y a deux ans, était sur l'idée que M. Legault ferait pas un troisième mandat. Donc se préparait à une éventuelle course à la direction. Et on a mis la main sur certaines de ces règles-là.
Donc, il y a des règles écrites qui existent, sur lesquelles toi, tu as mis la main, Antonine Iaccarini, c'est en exclusivité Boulevard, et tu vas nous raconter comment qu'on organiserait cette course à la succession pour peut-être Simon-Jolin Barrette, qui est à 18%.
Mais qu'on a vu ce matin, entre autres, à la télé, si vous avez vu.
Geneviève Guilbeault, qui est à 15%. Ou peut-être pour Bernard Drinville, mais il est à 1%, Bernard.
Puis, il faut le dire, là, en début de course à la chefferie, les sondages, c'est toujours un peu... C'est toujours famélique, là. Puis c'est normal, parce que le chef actuel prend tellement de place et tout ça. Mais après ça, la course est déclenchée, puis les gens se font connaître, puis on a vu des gens qui partaient de pas grand-chose pour finalement gagner des courses à la chefferie. Et pourquoi c'est important, les règles de course à la chefferie? C'est que, dépendamment des choix qui sont faits par le parti, ça peut avantager un type de candidat, désavantager d'autres types de candidats. T'sais, par exemple, le coût d'entrée, la méthode de vote. Chez les libéraux, par exemple, l'année dernière, il y avait des votes prépondérants pour les jeunes. Et il y avait des candidats qui avaient plus de succès auprès des
Charles Milliard. Il a passé proche de battre Pablo.
Quand on a vu la course au fédéral l'année passée, la succession de Justin Trudeau, il y avait un fort coût d'entrée. Donc, on ne voulait pas avoir 12 candidats, cette course-là.
Exactement. Donc, ça l'a réduit à 4, ça permet à Marc d'être élu.
Exact. Donc, les courses à la les règles de course à la chefferie, c'est très important. Là, il faut que je vous dise ce que je vais vous dire ce qui est écrit dans les documents que j'ai trouvés, mais ces règles-là n'ont pas nécessairement été adoptées, elles ne sont pas nécessairement coulées dans le béton. C'est un projet qui a été fait. J'ai eu des échanges courriels, donc il y a plusieurs personnes qui ont travaillé sur ces règles de course à la chefferie-là. Mais en cas de départ de François Legault, dans la constitution du parti, il est écrit que c'est le comité exécutif, l'exécutif national, qui va déterminer les règles de course à la chefferie, et là, ça deviendrait officiel.
Mais quand même, c'est une proposition qui est précise, donc on peut se dire que ça va ressembler à ça si le Legault part.
Donc, on parlait ici, en fait, si je vais vous lire des extraits là, carrément. Le président d'élection proclame chef de parti, le candidat ayant obtenu la majorité absolue, 50% plus 1 des suffrages exprimés. Donc, si aucun candidat n'obtient la majorité absolue au premier tour, un nouveau décompte est effectué en éliminant le candidat ayant obtenu le moins de votes. Donc, il y aurait possibilité d'avoir plusieurs tours comme ça, et c'est un vote préférentiel. Donc, ça veut dire, ça, là, comment ça change la dynamique d'une course à la chefferie, ça veut dire que tu es un peu moins méchant, des fois, avec certains adversaires, parce que tu dis, moi, je veux avoir ces votes. Je veux être le deuxième choix de ce candidat-là. On a vu ça au Parti libéral l'année passée. Dans les débats, tu voyais que par exemple, Cal Blackburn, qui est un fin renard, il attaquait pas les deux plus petits candidats, parce qu'ils se disaient, moi, ces votes-là, là, quand ils vont être éliminés au premier tour, je les veux.
Fait que ça veut dire qu'un Simon-Jolin Barrette à 18% présentement serait ami-ami avec Sonia Lebel à 6%.
Bien, ça dépend, parce que là, puis c'est super intéressant ce que tu dis, parce que à la CAQ, il y a une aile fédéraliste plus rouge, puis une aile plus nationaliste. Une Sonia Lebel est classé, là, mettons qu'on fait ça bêtement, dans l'aile rouge, alors qu'un Simon-Jolin Barrette est classé dans l'aile bleue. Geneviève Guilbeault était réputée plus être de l'aile rouge aussi. Donc là, tu vois une certaine division de
Christine Fréchette, elle, à 9%?
Christine Fréchette,
on le sait pas trop.
Ben, on le sait pas trop. Elle a travaillé au PQ quand même, Christine Fréchette, fait qu'on peut s'imaginer qu'elle
Bernard Drinville, c'est ça, c'est
Bernard Drinville, mais là, tu te dis, OK, fait que dans un vote préférentiel comme celui-là, si t'es un Simon-Jolin Barrette, tu vas pas nécessairement planter Bernard Drainville, mettons qu'ils sont, qu'ils sont des candidats.
Tu pourrais être rallié encore plus que juste par le parti en ça.
Tu veux avoir ces votes-là, mais en même temps, tu te dis, c'est ceux qui vont vraiment vouloir voter pour Bernard, là, je veux pas qu'ils maillissent non plus.
Non.
Là,
ça, parce que quand Bernard va être éliminé après le premier tour, je veux qu'il vote pour moi.
Je veux être son deuxième choix. Donc, c'est super important, ce genre de règles de course à la chefferie. Puis, tout ça, ça met aussi en exergue le fait que M. Legault a changé d'idée en titi, là.
Ben oui.
Parce il m'a fait perdre 100 piastres, ravoir 100 piastres.
Parce que tu gageais, toi.
Contre Yannick. Depuis le début, je dis... Puis tu sais, je veux dire, je vous souhaite que je le perde, le 100 piastres, mais depuis le début, je disais, il va pas se représenter. Plus ça avançait, plus je pensais le perdre, ce 100 piastres-là.
Ah oui.
Puis il y a même quelqu'un qui nous écrit au 88-971-1021. Même Justin a eu l'intelligence de démissionner avec un appui supérieur à Legault. Mais en même temps, là, on peut bien choisir, avoir envie de ça. Antonine, tu nous éclaires souvent sur tout ce que ça constitue aussi un départ à ce moment-là. Là.
Bien, d'abord, un départ de François Legault, ce que ça voudrait dire, c'est que les prochains mois, là, le gouvernement serait au ralenti, parce qu'on serait vraiment dans une course à la succession. C'est pas vrai que les ministres, les successeurs potentiels, là, t'sais, on serait tous vraiment concentrés sur nos dossiers nécessairement. C'est pour ça qu'on sent qu'il y a vraiment un rush aussi en ce moment. Évidemment, on a comme une urgence de vivre. C'est sûr que c'est la dernière année avant la prochaine campagne électorale. Mais M. Legault envoie des signaux de quelqu'un qui veut rester. Puis, à un moment donné, il y a un moment limite aussi. Parce que tu peux pas, il pourrait pas décider de partir deux mois avant l'élection, parce qu'il faut choisir un chef potentiel.
En effet.
Donc, c'est sûr que le deadline qu'on voit tout le monde, c'est Noël. Donc, si M. Legault revient février là, pour la rentrée parlementaire, puis qu'il n'a pas décidé de quitter, moi, je pense que ça y est, là, c'est ça le sort en jeté. Oui, donc ça va être à suivre, mais le parti s'était préparé pour le premier scénario, c'est-à-dire que...
Que celui qui partait avec une proportionnelle qui amène une course à la chefferie tellement intéressante. Y avait-tu d'autres choses dans ce que tu as vu, les échanges courriels, les documents, y a-tu d'autres choses qui nous disent...
Non,
wow!
Mais il y a une autre rumeur de laquelle je veux vous parler. Puis c'est vraiment de l'ordre de la rumeur, puis hier à la CAQ, on y est en bloc que c'est vrai, mais ça circule énormément. Ce serait le départ potentiel de la directrice générale du parti.
Oh.
Brigitte Legault, c'est pas la sœur de François Legault, je vous
okay, qui sont jamais donné de bisous.
C'est pas elle qui a reçu un bec en 2018. Brigitte Legault, c'est vraiment l'acolyte de M. Legault, c'est son organisatrice en chef, c'est l'architecte des campagnes électorales qu'on a connues. Et au parti hier, on me disait, c'est nos adversaires politiques qui spinent ça parce que ça augmente l'espèce d'idée que M. Legault est sur le bord de s'en aller puis que tout va mal. Mais on peut vous assurer que Brigitte Legault va être là à la prochaine campagne, qu'elle est en train de travailler là-dessus et tout ça. Mais c'est très persistant, ça n'arrête pas de revenir à mes oreilles que Brigitte Legault quitterait. Puis c'est sûr qu'en ce moment, avec la crise un peu dans laquelle M. Legault se trouve, ça enverrait vraiment un bien mauvais message d'avoir sa DG qui quitte le navire. Tu sais, si un Lionel Carman quitte, c'était un coup dur, on s'entend. Mais Brigitte Legault, ce serait un coup beaucoup plus dur qu'un départ de Lionel Carman.
Je vous adore, auditeur, auditrice, par texto. Il y a Marie-Ève qui écrit « Vous trouvez pas qu'on est déjà au ralenti? » Parce que tu dis que ça mettrait le gouvernement au ralenti.
Ben, je les trouve un peu hyper actifs, mais je suis pas sûre que ça donne toujours les fruits.
Puis il y a Kim qui écrit « On peut mettre ça au ralenti, ça va éviter des dépenses folles. » Antonine...
c'est encore drôle. Ouais.
Antonine, dis-moi donc, est-ce que ce qui est arrivé ce matin à l'Assemblée nationale alors que François Legault était questionné par Marois Risky, c'est de la frime?
La réponse du premier ministre.
On se lève. On l'ovationne. Hey, rassoyez-vous, on n'a pas le droit à l'Assemblée nationale.
C'est vrai, c'est interdit. C'est interdit.
Check bien ça comme en maternelle, écoute-moi. Comme bien ça, Pascal. Salut! Il y a des jeux de mots!
Ben oui, il y a un don.
On est dans une cour d'école! Notre politique à la meilleure.
Pauvre Nathalie Roy
vous
qui est comme le
règlement. Et là, on est obligé de prendre une pause de quelques minutes pour que les esprits se calment.
Là, dans ce temps-là, les gens vont dans l'antichambre puis ils mangent des petites pinottes au chocolat
c'est
en
ça.
Arrière.
Les petits amis, on s'en va dans la salle de retrait. Prenez chacun votre doudou, d'accord? Là, on va se calmer,
on
va se tempérer.
On est-tu en train de faire un spectacle? On est-tu en train d'attirer l'attention? Ou vraiment, là, ça chauffe là, à l'Assemblée nationale?
Non, je pense qu'on est un peu dans... dans le spectacle. Puis,
ben
oui. Mais il faut comprendre que c'est souvent comme ça. C'est-à-dire que, puis c'est vrai que les applaudissements sont interdits, je le mets entre guillemets, pendant la période de questions, oui, depuis quelques années déjà. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Ça peut sembler niaiseux, mais c'est que ça finissait plus.
Ben non, par date du temps.
Là, à chaque fois que quelqu'un disait quelque chose, ben, vous avez juste à regarder la période de questions à Ottawa. Communes. Exactement.
À Ottawa, Mark Carney dit deux phrases.
Bonjour,
innovation.
Bravo, bravo.
Non, non, mais Carney dit deux phrases, ovation de 30 secondes. Il a dit deux phrases, une autre ovation.
Ça pouvait sûrement faire des stratégies politiques aussi pour un parti qui voulait présenter quelque chose puis qui se voyait
pas
couper du temps parce que l'autre disait
une
pas
période de questions, c'est une période de temps fixe. Donc, tu sais pas jusqu'à combien de questions tu vas te rendre. Okay, toi, tu es dans l'opposition, puis mettons que tu as la question 11, toi. Tu sais pas si tu vas te rendre en question 11. Fait que plus il y a du niaisage, puis du
moins
t'as bravo, moins tu as de temps pour poser les questions. Fait qu'à un moment donné, on a décidé à l'Assemblée nationale d'enlever les applaudissements. On applaudit quand même quand il y a des motions ou des gens dans les tribunes, mais on n'applaudit plus pendant la période de questions parce que ça faisait juste des effets de toge. Puis là, tout le monde se crainquait, puis ça faisait la garderie comme tu nous as fait entendre.
Là, on a ovationné François d'un côté, on l'a hué de l'autre bord. On l'a ovationné parce qu'il y a 61% des Québécois qui veulent qu'il quitte. Il y a seulement 23% des Québécois qui veulent que François Legault reste. Et il y a seulement 1% qui sont très satisfaits du gouvernement. Donc,
je pense
que
c'est le staff de la CAQ, ça.
Oui, c'est ça, ou la famille.
La famille.
La famille, quelque chose. C'est de la frime, là. Il y a du monde à l'intérieur de la CAQ qui veut qu'il parte. Là. C'est pas tout le monde qui a le goût d'ovationner François Legault parce qu'il dit « Si j'ai ce score-là, c'est en raison des méchants lobbies. Les médecins ont rempli le Centre Bell contre moi. Les syndicats s'élèvent contre mes politiques. » Mais dans les faits, là, c'est parce que aïe, 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 déficit record, gestion déficiente, Satlick, Norvolt, puis là, tu sais, je pourrais continuer
puis
une bonne longue liste.
Usure normale usure aussi du pouvoir, après, après 7 ans, à travers tout ça. L'état d'esprit en ce moment à l'interne, là, avec les gens à qui je parle puis qui me parlent un peu plus off the record, les députés, ça dépend lesquels. Là. On a vu des Isabelle Poulet puis Maïté Blanchette là, qui n'étaient pas contentes puis qui est sortie puis tout ça. Il y a des gens qui parlent contre, contre le leadership du premier ministre. Lionel Carman, lui, il n'a pas quitté pour remettre en question le leadership de François Legault. Non. Il est en désaccord sur une question de valeur, c'est autre chose. Sinon, là, on en parlait tantôt quand on parlait de la succession de François Legault. La CAQ, c'est un parti qui est interrelié de manière complètement fusionnelle avec son chef. Les députés, pour la plupart, le savent. Et ils savent très bien que si on était élus en 2018 puis en 2022, c'est pas grâce à leur belle personnalité à eux. Là.
C'est à cause de François Legault.
C'est François Legault qui a été une locomotive pendant longtemps. Puis là, à la minute où ça marche plus, on lâcherait puis on commencerait à le pousser vers la sortie. Donc, les gens se gardent une gêne. Moi, j'aime bien faire la comparaison de ce qui se passe en ce moment avec ce qui s'est passé à Ottawa l'année passée pour Justin Trudeau. Le Parti libéral du Canada, ce n'est pas Justin Trudeau. C'est un parti qui existait avant Justin Trudeau. Il y a eu beaucoup de chefs. Il va en avoir d'autres après Justin Trudeau. C'est un véhicule, mais ce n'est pas son véhicule à lui. Donc, il y avait un petit peu plus d'animosité au sein du caucus, des députés qui se sont mis à sortir, à écrire des lettres ouvertes dans les journaux, à parler aux médias, etc., etc. On sent moins ça à la CAQ. Hein, il y a quand même une idée que, tu sais, la CAQ, c'est à lui, dans le fond, puis qu'il partira quand il partira. Il y a aussi des gens qui défendent François Legault. Il y a des ministres, notamment, qui ont pris la parole récemment.
Mathieu Lacombe, ministre de la Culture, qui lui sort et dit, l'avoue lui-même, là, moi, si je suis en politique, c'est à cause de François Legault.
Exactement.
C'est lui qui m'a fait élire deux fois. Là.
Donc, il a fait une espèce de manifestation de loyauté publique. Je vais être bien honnête avec vous. Les médias ont tendance à plus couvrir le croustillant que quelqu'un qui dit « Moi, je trouve que François Legault fait un bon travail. » Pas nous autres, je parle
ben
des
non, fait,
autres.
Attends,
là.
Attends, on fait pas ça, j'ai fait jouer ça, mais on fait pas ça.
La
pas jouer
réponse
fait
du premier ministre.
Pas boulevard.
Jamais.
Ah. Ben, c'est parce que si François Legault est à l'écoute, son petit cœur va mieux,
ça va mieux.
C'est pour ça que je baisse le son avant les huées.
Avant les huées. Donc, ça fait un peu moins les nouvelles des gens qui sont satisfaits, mais cela dit, il n'y a personne en ce moment qui le pousse directement vers la sortie. Autre point intéressant de comparaison avec Justin Trudeau l'année passée, c'est Chrystia Freeland.
Ben oui.
Elle l'a poignardé en public, là, tu sais, le jour de la mise à jour économique, elle était fâchée pour toutes sortes de raisons. Ça, c'est énorme. Puis Chrystia Freeland, ben, elle n'a pas gagné la course à la chefferie après. Donc, des successeurs potentiels de François Legault en ce moment, Ils veulent pas faire un Chrystia Freeland.
Ils poignarderont pas, en effet. Puis tu sais, l'effet Chrystia Freeland, si je veux faire un comparatif, puis tu me dis si je me trompe, c'est un peu comme si Christian Dubé sortait aujourd'hui puis disait « Savez-vous quoi, la loi spéciale, c'est François Legault, il me l'a forcé, puis quand la CAQ, je m'en vais. »
Je suis d'accord avec ton analyse. Honnêtement, c'est drôle de... Tu n'as rien dit pendant tout ce temps-là, mais maintenant que tu apprends que tu vas être tassé de ton poste de ministre des Finances, tu n'es pas d'accord avec ce que tu as fait dans les dernières années.
Puis peut-être que, oui, effectivement, elle aurait pu remporter quoi que ce soit, mais en même temps, en ne l'ayant pas remporté, je me demande, Antonine, si les autres partis, admettons qu'elle voulait aller dans un autre parti par la suite, ne ferait pas « Oh non, toi, tu as déjà poignardé ton chef dans
le
groupe
politiquement parlant. » Oui, c'est un coup politique aussi de poignarder son chef. Mais c'est drôle que tu poses cette question-là en même temps parce qu'on se dit si elle voulait aller dans un autre parti. T'sais, on est vraiment dans des années où le monde magasine des partis et change beaucoup de partis. Ben. Il y a moins de... Cette loyauté-là, elle existe moins. Puis je pense qu'on... On parle des successeurs potentiels de François Legault, puis des fois, on parle de ceux qui sont déjà ministres, mais il pourrait y avoir des gens de l'extérieur qui veulent reprendre le flambeau. Mais tu te dis, est-ce que tu as vraiment envie de reprendre le parti dans l'état actuel des choses avec un caucus qui n'est pas le tien, des gens qui ne s'entendent pas tous entre eux? Donc, je pense qu'on va peut-être voir dans les prochaines années des nouveaux partis politiques. On regarde en France, par exemple, Emmanuel Macron, il est arrivé de nulle part avec un nouveau parti là, En Marche. Est-ce qu'on va voir un peu ce phénomène-là au Québec aussi? François Legault est arrivé avec la CAQ, puis c'est son bébé à lui. Peut-être qu'on aura un jour un autre parti.
Quand le PQ s'était scindé, ça a été Option nationale en premier avec Jean-Martin Hossan. Il y avait Sol Zanetti également qui était là-dedans. Donc...
Puis Option nationale n'a pas vraiment survécu au départ de Jean-Martin Hossan pendant un petit bout de temps après. Donc, il pourrait aussi... L'après François Legault à la CAQ, ça pourrait aussi être un rebrassage complet
de
des
nouveaux
partis politiques.
Ben oui, exactement. T'as entièrement
Retour de la
raison.
DQ, pourquoi pas?
Ben justement, je te pose la question, Mario Dumont, t'en penses quoi? Il y a plein de monde qui pitch son nom. Moi, je pense qu'il est heureux dans les médias. J'y ai pas parlé personnellement, mais j'avais fait une chronique avec lui à l'automne, au printemps passé, puis j'y avais posé la question off the record, puis il m'avait dit « Écoute, je suis tellement bien dans les médias. J'ai un nouveau défi à la radio. » Tu sais, je ferme jamais la porte, mais disons qu'elle n'est pas ouverte à l'heure actuelle.
Ouais, ben je pense que c'est vrai. Puis Mario Dumont, il a une superbe carrière dans les médias, très apprécié des gens. Tu sais, quand tu vas en politique, il y a des gens qui vont t'aimer, il y a des gens qui vont t'haïr. Puis à la fin de ton passage, si t'es premier ministre, ben tout le monde t'haït pendant un petit bout de temps. Après ça, le monde t'aime un petit peu quand il t'oublie puis que le temps passe. Mais quand tu as un travail comme celui de Mario Dumont, où tu parles aux Québécois tous les jours, tu rentres dans leur salon, dans leur auto, dans leurs oreilles. Tu sais, vous le savez, c'est un privilège de faire ce travail-là. C'est un peu dur de penser qu'il va retourner en politique. Excusez-moi l'expression, c'est vulgaire, mais se faire chier. Parce que tout le monde, on le sait comment c'est dur, la politique, travailler à la fin de semaine, les soirs, sans cesse, pour te faire envoyer promener par pas mal de monde. On peut comprendre que c'est un drôle de choix des fois, mais on a vu un Bernard Drainville retourner. La politique, c'est une drogue dure. Donc, moi, je pense qu'on peut jamais l'exclure complètement. Puis je me méfie aussi des messies. C'est-à-dire, à force de toujours parler de quelqu'un comme d'un messie, Jean-Martin Hossan, ça a été ça pendant longtemps.
Ça m'amarre quand les rumeurs qu'il allait s'en venir à la ville
Quel
de
bon
Québec,
exemple.
C'était vu comme un messie.
Des fois, ce qui arrive, c'est que tu ne peux que décevoir après quand les attentes sont tellement, tellement élevées. Donc, ça doit être il a dû y penser aussi, Mario Dumont.
Il n'y a rien. C'est vraiment quelque chose que j'ignore. Par exemple, un Mario Dumont qui a ce privilège-là de parler, faire valoir ses idées, d'aller chercher un bon grand public quand même là, quotidiennement. Il n'y a rien qui dit... dans une loi quelconque, que tu as déjà eu trop de privilèges pour parler aux personnes. Il faudrait peut-être que tu te fasses, fais-toi pas voir pendant 6 mois, fais-toi pas entendre. Il n'y a rien en politique qui demande ça.
Pourquoi on empêcherait les gens de parler après avoir été élu?
C'est vraiment quelque chose que je me questionnais depuis longtemps, en me disant, est-ce qu'il y en a qui pourraient dire, tu as eu ce privilège-là, donc tu as pu faire une course, mettons, avant la vraie course, avant nous, puis tu avais du temps de glace. Je me suis toujours questionnée. S'il y avait quelque chose
ça serait quoi l'effet pervers d'avoir des gens... ça serait quoi l'enjeu en ce moment qu'on a qu'il faudrait régler avec une telle réflexion?
Moi, je verrais une réflexion d'un parti opposé, par exemple, à celui de Mario Dumont, s'il arrivait en politique, puis qui dirait, oui, mais là, toi, t'as l'avantage depuis des années de faire passer tes idées, de parler aux gens. Moi, je suis un kidam qui arrive de nulle part. On n'est pas à égalité dans cette course-là. Ça s'est jamais entendu ou vu, ou peut-être juste pointé du doigt pour écœurer l'autre.
Non, mais c'est sûr que les journalistes ou chroniqueurs qui passent du côté politique, c'est toujours critiqué quand c'est pas dans ton parti. En fait, je vais dire ça comme ça.
Je veux terminer cet excellent caucus Iaccarini du lundi au jeudi à l'émission Nageurs de midi à midi et demi. Je commence par un extrait de cet homme.
Et mon message ce matin, c'est qu'un parti libéral du Québec qui fait des campagnes de peur et qui a presque pas de contenu On a vu ça à presque chaque décennie de notre histoire au Québec. Et ça a toujours mené à des gouvernements affairistes et corrompus.
Il s'est mal chicané, notre Paul Saint-Pierre.
Ben, hein, il est devenu plus négatif.
Oui, il est devenu plus négatif. Il voulait faire de la politique autrement. Il était positif. Il se promenait. Tout le monde l'aimait.
Tout le monde l'aimait. Ben
PSPP,
oui.
PSPP. Il a gagné Jean Talon ici comme si rien n'était.
Il a gagné toutes ses partielles.
Il a gagné toutes ses partielles. Mais là, oups! Depuis qu'il est négatif, il est passé de 36 % à 32 %.
En fait, tu sais quoi? Je vais te présenter les choses autrement. Je pense pas qu'il a changé. Je pense juste que ça passe moins. Parce que... il est comme ça. C'est un bagarreur.
Oui, c'est clair. Mondon.
Puis je le comparerais pas, par exemple, à un Pierre Poilievre, là, non, qui va beaucoup trop loin.
Mais c'est clair que pour remonter le PQ comme il l'a fait, il faut que tu saches te bagarrer.
Exactement. Puis c'est drôle, hein? C'est vraiment intéressant ce que tu apportes comme point, parce que pour passer de parti que tout le monde a déclaré mort puis quasiment enterré à réussir comme ça à être premier dans les sondages pendant 2 ans, tu sais, je veux dire, c'est extraordinaire, puis ça prend de l'audace. Mais à un moment donné, quand t'es premier là, puis que t'es bien installé, faut que tu changes un peu. Moi, en politique, mon ancien boss, Jean-François Lisée, disait, il y a des faucons puis il y a des colombes. T'as besoin de faucons qui prennent des risques, qui sont à l'attaque, puis surtout si tu veux passer de troisième opposition au gouvernement. Okay? Moi, j'étais une colombe, OK? C'est-à-dire, je suis pas la personne pour être cow-boy, puis attaquer le monde, puis être négative, puis faire un sale coup à quelqu'un. Mais je suis plus le genre de personnalité qui va t'éviter des problèmes en disant ça. Tu vois, je pense que c'est pas une bonne idée. Bien, là, j'ai l'impression qu'ils ont leur réflexe de faucon, mais qu'ils n'ont pas le réflexe...
Ils sont pas entourés de colombes?
Ben, écoute, je ne sais pas s'il y a des colombes dans leur entourage, mais tu sais, je vais donner des exemples concrets. Paul Journet écrit un texte et il parle de la surenchère identitaire entre le PQ et la CAQ. Il s'interroge un peu sur est-ce qu'on est en train d'aller un peu trop loin puis d'instrumentaliser les questions identitaires, par exemple de laïcité, etc., d'immigration, parce que la CAQ puis le PQ, finalement, la CAQ est au gouvernement puis le PQ est premier dans les sondages, puis là, ça donne une surenchère. Là, Paul Saint-Pierre Plamondon prend sa plume sur X et écrit un très long tweet qui parle de procès d'intention puis de fallacieux puis de nanana. Paul Journet, c'est pas un adversaire politique. C'est un chroniqueur, éditorialiste de la presse qui est plutôt réputé pour être équilibré. Il n'est pas du genre tant que ça à planter les gens. Il est quelqu'un de balancé, généralement. Puis j'avais lu la publication de Paul Saint-Pierre.
Mais pourquoi?
J'étais comme, c'est beaucoup trop agressif. T'sais, il aurait pu dire, ben, je m'inscris en faux, puis voici mes arguments, mais procès d'intention. Puis je lisais le texte de Paul Journet, puis je me disais, c'est pas un procès d'intention. Après ça, il y a eu Régis Labeaume. Richard Labon m'a écrit un texte, puis pour vrai, quand je l'ai lu, je me disais, voici un procès d'intention. Oui. Ça, c'était vrai.
Puis il est passé, tout le monde en parle, puis il a fait le même procès d'intention.
Absolument. Fait que, tu sais, moi, être Paul Saint-Pierre Plamondon, j'aurais répondu, puis ça aurait été assez bête. Mais c'est juste que là, quand tu t'ostines avec tout le monde, tout le temps, tu réponds à tout. Tu sais, il faut faire des choix. Eux, ce qu'ils disent au PQ, c'est on peut pas laisser se cristalliser ces idées-là, on doit répondre. Oui, mais tout est dans le comment aussi. Puis c'est sûr qu'entre un Régis Labeaume qui dit un peu plus « vous voulez mettre tous les musulmans en prison », là, j'exagère aussi juste pour mon image, puis un Paul Journet qui dit « est-ce qu'on est dans une situation de surenchère? » Tu sais, je pense qu'il faut être prudent. Il y a une motadine de différence.
Oui, il y a une différence dans les deux discours.
Ben, les réponses sont les mêmes.
Il y en a un petit peu plus osé et poussé.
Et de mauvaise foi.
Et de mauvaise foi, en effet. Puis il y en a un autre qui est beaucoup plus tempéré.
En mode analyse. Il n'a pas rien dit qui était faux comme tel. Donc, je pense que ça peut-être avoir effectivement un impact sur la petite baisse là, qu'on voit du côté des sondages du PQ.
On a un auditeur qui écrit « PSPP, passer de bon père de famille à petit baveux ».
Ouais, c'est ça. Ouais. Ça plaît pas, ça. Hein?
Hey, je t'en remercie, par exemple, parce que je viens de découvrir que j'étais un maudit faucon, moi.
Toi, tu t'identifies comme un faucon?
Hey, moi, je fonce.
Toi, Pascal,
devine. Première.
Colombe.
Oui.
Fait que j'ai besoin de m'entourer de colombes. J'ai pas le choix.
Ben dans une équipe, là, toi qui as géré des équipes et tout ça, t'as besoin des deux.
Ben oui.
Moi, j'ai travaillé...
RTC, ils m'ont toujours dit crime qu'on aime son, te donne un défi, tu fonces tête première, ben, avoir go, tu le réalises. Une fois qu'il est réalisé, ben, j'ai besoin d'une petite colombe qui vient stabiliser ce que j'ai fait.
On se calme maintenant. C'est ça, faut on se stabilise. Moi, j'ai travaillé avec
qu'il
mon
chum.
C'est
pour ça qu'il me trouvait un autre défi. Ben, il dit, hey, check donc, on va aller
là. Il faut vous donner des missions.
Pas le choix.
Les pour faucons, vous occuper. Pour vous occuper. Puis moi, j'appelais ça dans le temps avant que Jean-François Lisée mette des noms d'animaux sur ça. J'appelais ça des, excusez-moi l'expression anglaise, mais des snipers. Mm. T'as besoin d'un sniper là, qui va aller, c'est quasiment un tueur à gage, mais là, je parle pas de vrai meurtre ici, là, je le précise. Moi, j'ai travaillé quelques années avec mon chum. À l'époque que j'étais au PQ, mon chum, il travaillait comme rédacteur de discours. Mon chum, c'est un sniper. Il ne sera pas content que je parle de lui comme ça, mais c'est un sniper. Tu le mets sur une mission, tu dis là...
Ben, t'es en train d'en faire la salle de lavage.
Faux petit... Ben, c'est ça, il est en train de sniper la
salle de lavage.
En une journée.
Parce que sa petite colombe me dit, « Hey, j'aimerais ça qu'on fasse la salle de lavage. »
Lui, il va avoir une idée de génie pour aller trouver quelque chose sur l'opposition, ligne assassine, etc., puis aller « gonner » entre guillemets quelqu'un. Mais des fois, son cow-boy, tu sais, puis des fois, c'est pas le temps. Puis, tu sais, si tu veux que les gens te voient comme un premier ministre... Ben, il faut que tu agisses aussi comme tel. Puis moi, c'est vraiment ce que j'interprète dans ce sondage-là. Puis aussi le fait que les autres partis prennent des plumes un peu, puis un peu du poids de la
bête. Est-ce que les Québécois ont trop peur? Parce que Max Larouche nous disait ça un matin, un souverainiste convaincu. Regardez comment le Québec a peur. Pablo Rodriguez a pris 2%.
Ben, moi, je me suis toujours méfiée des libéraux. Le monde, il riait d'eux autres il y a 2 ans. Je dis attention, ils trouvent toujours le moyen de regagner.
Il y a une machine.
Ben, c'est le parti rassurant de... Je vais gérer l'économie.
Ben, c'est drôle. C'est ce que je disais à matin, Yannick. Je disais, où est-ce que tu veux que mon père se retrouve? Lui qui avait voté à la CAQ, mais qui est fédéraliste à côté.
Ouais, puis qui est plus capable de François Legault.
Exactement. Plus capable de François Legault. Écoute, François Legault puis Donald Trump, il en fait des cauchemars les deux le soir. OK? Fait que là, il se réveille à matin, je veux plus à CAQ. Il n'ira pas au PQ, il n'est pas souverainiste.
Québec solidaire, non? Ça l'intéresse pas.
Non, je pense pas que le discours de Québec solidaire. Il y aurait peut-être, et justement, on va l'avoir avec nous dans quelques instants, Éric Duhaime, il y aurait peut-être le Parti conservateur, mais pour le moment, il trouve qu'il y a un petit peu trop d'extrême dans le Parti conservateur. Fait quoi, est-ce qu'il s'en va? Aux libéraux.
C'est l'option.
Il y en a plein de gens comme ça.
Oui, puis là, on a parlé beaucoup de référendums dans les derniers temps. Il y a quelques temps, on disait, ouais, le PQ promet un référendum dans un premier mandat, mais tu sais, ça restait loin puis hypothétique. Puis là, plus on s'approche de l'échéance, il y a une crise commerciale avec les États-Unis. Tu sais, donc, il y a certaines personnes pour qui ça va créer une insécurité. Tu sais, moi, je fais souvent la métaphore quand on parle de séparation du Québec avec un divorce. C'est sûr que tu dis, bon, toi, dans ta tête, tu prévois de te divorcer et ça implique un paquet de choses. Puis là, tu dis, ouais, c'est peut-être pas le bon moment ces temps-ci, il se passe ci, il se passe ça. Il y a toujours quelque chose, tu sais. Puis en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a une couple d'électeurs qui se disent, bien, avant, j'étais prêt à voter pour le PQ, même si je suis pas vraiment souverainiste. Mais là, peut-être, je prendrai pas de chance qu'il y ait un référendum.
Pas le risque de ça. Très bonne analyse, Antonine Iaccarini. Tu restes avec nous?
Oui.
Parce que je veux absolument que tu questionnes Éric Duhaime, parce que hier, tu nous as sorti en primeur. Duhaime, il s'en va dans Belle Chasse.
Ben, là, attends, là.
Fait que là, il s'en vient en studio avec nous autres, avec Maïté Blanchette-Vézina. C'est une excellente idée de Pascal CV, parce qu'on va parler, Pascal, de quoi avec Maïté et Éric Duhaime? Plus, on est dans le même parti politique que
ça. Ça sera
va falloir leur poser la question, Mais on va parler de vote proportionnel. Hein?
Exactement.
Ah oui, j'ai une belle cote de
là,
François
si vous dites non, que c'est ça, je ne change de poste. Non, attendez.
Non.
Sachez du petit bonbon là-dedans.
Oui, parce que sachez qu'avec le vote proportionnel, et je sais qu'on a beaucoup d'auditeurs qui votent pour le Parti conservateur du Québec, bien, vous auriez 10 députés du Parti conservateur du Québec si on avait eu le vote proportionnel en 2022.
Et c'est sur quoi ils se défendent et plaide énormément depuis les dernières élections.
Exactement. Fait que c'est pour ça qu'on vous en parle. C'est pour que votre vote ait plus de valeur. Alors, restez à l'écoute. On reçoit Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, et Maïté Blanchette-Vézina, députée indépendante de Rimouski, ex-députée et ministre à la CAQ. On va parler avec eux de vote proportionnel. Ils ont fait une sortie publique commune aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vous êtes à l'émission On en jase sur Boulevard 101.